Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade, Isul Sikar et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Amin El Mansari.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Une nouvelle semaine s'offre à nous et elle sera consacrée au mirage de la dette. Construction politique ou levier de croissance, la dette est devenue le carburant du capitalisme mondial dans des économies de plus en plus assujetties aux marchés financiers. Les dettes ne se payent pas avec des mots, écrivait Shakespeare. Mais peut-être les mots peuvent-ils aujourd'hui nous aider à mieux saisir les enjeux de ce crédit généralisé. Demain, nous retracerons l'histoire française des banqueroutes d'État. Mercredi, nous nous pencherons sur les conséquences sociales du surendettement. Jeudi, enfin, on verra que la dette est un instrument politique. Mais d'abord, alors que l'endettement mondial s'élève à près de 200 000 milliards de dollars, un capitalisme sous perfusion, c'est notre sujet aujourd'hui. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de la dépendance de nos économies à la dette en compagnie de Denis Durand, directeur de la revue Économie et Politique, auteur de « Un autre crédit est possible » paru aux éditions Le Temps des Cerises, avec Vincent Bignon également, économiste, chercheur à la Banque de France. En fin d'émission, Arjuna Andrade nous donnera des nouvelles de l'écho.
Global debt is at an all-time high.
La dette mondiale est à un niveau sans précédent. Elle s'élève à 164 milliers de milliards de dollars, ce qui représente 225% du PIB. La société internationale qui nous a réellement apporté depuis des générations en aidant à réduire la pauvreté et créer plus de progrès pour le monde qu'à n'importe quelle autre époque de l'histoire, cette structure internationale est désormais remise en cause, notamment en matière de respect des règles du commerce.
Bonjour Denis Durand et Vincent Bignon.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez peut-être reconnu Christine Lagarde, la directrice du Fonds monétaire international, alertant sur les risques que la dette fait peser sur l'économie mondiale. C'était en avril dernier. Quel est votre regard sur les possibles conséquences de cette dette qui a largement dépassé son niveau de 2008, Vincent Bignon ?
Il y a une surveillance particulière en fait des niveaux de dette alors par les différentes institutions internationales, notamment parce que il y a un certain nombre de travaux qui suggèrent que les fortes augmentations de situations d'endettement créent des fragilités dans les systèmes financiers. Et ces fragilités doivent être surveillées. Et cette surveillance, alors, normalement, se fait par les autorités de supervision. Et donc, c'est pour ça que régulièrement, il y a des questions sur où sont les fragilités, est-ce qu'elles bougent, et est-ce qu'on peut faire quelque chose contre.
Une surveillance nécessaire peut-être aussi parce que, selon le cabinet Vanguard, ce matin, il y a un article dans Le Monde, parlait d'une possible, non pas d'une possible récession, mais d'un PIB mondial qui devrait ralentir à 3% en 2019 après avoir atteint 3,5% cette année. C'est pour cela, Denis Durand, qu'il faut d'autant plus surveiller la croissance de cette dette mondiale.
Certainement, puisqu'on a un cycle conjoncturel qui a redémarré après la crise de 2008-2009, qui a donc maintenant bientôt approche de la décennie, et donc on peut supposer qu'on s'approche d'un retournement de cycle. Et plus des ingrédients vont être injectés dans l'économie pour maintenir et accélérer la croissance, comme le fait la politique de Trump en ce moment, plus on risque que la chute soit plus brutale.
Dans cette dette, il faut peut-être différencier la dette publique d'un côté, la dette privée de l'autre. Et à l'intérieur de la dette privée, on a la dette des entreprises et la dette des ménages. Mais selon le FMI, la Chine représenterait à elle seule plus de 40% de l'augmentation de la dette depuis 2007. Il y a une attention particulière qui est portée sur la Chine, Vincent Bignon ?
Je pense qu'il y a une attention particulière qui est portée au sens de d'acquérir de l'information, de comprendre les phénomènes qui se passent. Après, accumuler de la dette en tant que telle, c'est pas nécessairement quelque chose qui est mauvais si les personnes arrivent à rembourser. Quelque part, la dette, c'est une manière de modifier dans le temps sa consommation et son épargne. Et donc, quelque part, c'est aussi quelque chose qui résulte d'un choix. Chacun, individuellement, on le sait, à nos différents âges de la vie, des fois, on s'endette plus, des fois, on a envie de s'endetter moins. Et quelque part, on pourrait, enfin, l'analogie est peut-être un tout petit peu forcée, mais on pourrait s'imaginer que pour les économistes, ce serait la même chose. Le problème est de savoir si, effectivement, les ressources pour rembourser la dette, en fait, rendre la dette soutenable ou pas. Et dans ce sens-là, c'est pour ça que la recherche d'information est importante, parce que c'est là qu'on se demande si effectivement, en face de cette dette croissante, il y a ou pas une capacité de remboursement qui s'améliore ou pas.
Et puis on va voir aussi ce qu'on fait avec cette dette, s'endetter, mais pour quelles raisons, on va en parler. Mais d'abord, en France, on parle beaucoup de la dette publique, on parle moins de la dette des entreprises. Pourtant, depuis un an, le Haut Conseil de stabilité financière, la Banque de France et l'INSEE ont tous les trois pointé la forte montée de l'endettement des entreprises privées. Et cela alors que cet endettement diminue ou du moins reste stable dans les autres pays européens. Alors comment expliquer cette exception française, Denis Durand ?
Alors c'est vrai que quand on regarde l'économie mondiale, donc de façon générale, on observe que depuis la crise d'il y a 10 ans, le crédit, l'endettement en général a tendance à augmenter plus vite que le PIB. Ce qui peut être interprété de différentes façons, mais en particulier, ça peut être interprété comme une baisse d'efficacité du crédit en termes de capacité à créer de la valeur ajoutée à partir des moyens apportés par le crédit. Et ceci, alors dans plusieurs grands pays, la croissance du rapport endettement sur PIB a été arrêtée, en Allemagne, aux États-Unis. Il y a deux pays où elle augmente, alors la Chine qui est un cas très particulier, et la France où ce ratio ne cesse d'augmenter depuis très longtemps. Et c'est effectivement un
donc un l'endettement des entreprises augmente plus vite que la croissance en France. Oui. Alors pour quelles raisons, Vincent Bignon ?
Alors, c'est une excellente question. La manière la plus simple, je pense, de se représenter le problème, c'est que, en fait, une partie des entreprises est peut-être en train de s'endetter pour pouvoir réaliser des opérations de croissance externe. Et ça, ça a à voir avec la manière, en partie, dont les entreprises produisent ou innovent. Et la croissance externe, aujourd'hui, c'est en partie racheter des entreprises plus petites, mais qui possèdent une technologie que n'ont pas les grandes entreprises, qui sont celles qui s'endettent beaucoup. Et donc, quelque part, en fait, on peut voir ça comme une forme de réallocation, en fait, de stratégie d'innovation. Donc, si c'est ça, la croissance du crédit, alors vous voyez qu'on est en train d'essayer de créer quelque chose qui est plus de produits, plus de valeur ou de manière plus économe de produire. Si c'est pas ça, ça pourrait être aussi du financement de restructuration de filiales, ce dont on va parler, qui est les prêts à effet de levier en fait.
Donc toute la question, c'est de savoir effectivement à quoi cet endettement, comment il est utilisé. Mais alors, peut-être il faut d'abord expliquer, Vincent Bignon, que les entreprises peuvent emprunter de l'argent à la banque ou se financer directement sur le marché. Alors, quelle est la différence entre ces deux modes de financement ?
Alors, d'abord, il y a une différence statistique, c'est-à-dire que les petites et moyennes entreprises se financent massivement par crédit bancaire et n'ont pas accès au marché. Et la raison pour laquelle il y a très peu de petites entreprises ou de même de moyennes entreprises sur le marché, c'est que ce que fait la banque, elle fait une opération en fait de dissection des risques de l'emprunteur. Et cette opération d'analyse, alors dissection pour dire que c'est vraiment quelque chose de technique et d'acquisition de beaucoup d'informations. En fait, cette opération-là, elle n'est pas rendue publique, mais la banque du coup choisit de prêter ou pas en fonction de l'analyse des risques qu'a fait de l'emprunteur. Donc ça, c'est quelque chose qui reste très, dans la banque et en quelque sorte. La banque, elle prend nos dépôts, elle les prête, et ce qu'elle fait au milieu, c'est de l'analyse d'informations. Ce que fait le marché, il n'y a pas d'agent en tant que tel qui est spécialisé là-dedans, et donc l'entreprise doit révéler beaucoup d'informations au marché, parce que forcément, c'est chacun des investisseurs, en quelque sorte, ou en tous les cas, au moins les analystes financiers, c'est-à-dire une population beaucoup plus grande d'investisseurs, qui vont faire cette même analyse des risques. Et ça veut dire pour l'entreprise, en fait, beaucoup plus de coûts en termes d'organiser la divulgation, la diffusion de cette information. Et c'est pour ça qu'on a cet écart, en fait, entre le financement par marché, c'est surtout des grandes entreprises, et le financement par la banque, c'est surtout des petites entreprises, parce qu'il faut que l'entreprise ait l'air insuffisamment solide pour payer les coûts de diffusion, de structure de l'information et de certification des comptes plus détaillés, on va dire, que dans le financement par banque.
Donc il faut être plus solide pour aller se financer sur les marchés, mais que permet ce financement sur les marchés, Denis Durand, par rapport à un financement par crédit bancaire ?
Je crois qu'il y a trois différences entre le financement par émission de titres sur un marché financier et le financement par recours au crédit. La première différence, c'est que quand la banque prête à une entreprise, elle crée la monnaie qui est prêtée. C'est la caractéristique des banques. C'est ce qui fait leur spécialité dans l'économie. Alors que sur le marché, ce qui va alimenter les ressources d'une entreprise, ça va être une épargne, des liquidités, de l'argent préalablement accumulé. Donc ça fait une grosse différence. Deuxième différence, c'est ce que disait à l'instant Vincent Bignon, c'est que une banque entretient une relation directe et normalement durable avec son client. Elle doit savoir effectivement quelles sont les caractéristiques du client, son marché, son efficacité. Alors que sur le marché, le principe même, c'est que si je suis détenteur d'un titre, une obligation ou une action, c'est vrai aussi, je peux le vendre à tout moment, à tout instant. Ça peut même se faire par des algorithmes aujourd'hui. Donc sur les marchés, ce sont des gens qui ne se connaissent pas, qui prêtent de l'argent à des gens qui ne les connaissent pas. Ça fait une grosse différence. Et la troisième différence qui découle des deux premières, c'est que sur les marchés financiers, ce qui est intéressant, c'est est-ce que le titre que je viens d'acheter va augmenter dans le futur. Donc ce qui intéresse le marché, c'est comment le marché va évoluer dans le futur. Alors qu'une banque, elle est obligée d'avoir des relations directes avec son client. Si elle coupe le crédit, elle est quand même obligée de lui expliquer. Et elle peut être amenée à tenir compte d'autres critères que les perspectives de rentabilité financière. Donc ça fait des différences importantes qui sont mal connues du public. Et pourtant, je pense que c'est un des phénomènes les plus importants qui ont modifié le cours de l'économie depuis 40 ans.
Peut-être, Vincent Bignon, vous pouvez nous réexpliquer rapidement la différence entre une obligation et une action. On estime en général qu'une action est plus risquée qu'une obligation ?
Alors, l'action, c'est ce que possède, enfin, c'est ce qu'achète un actionnaire, donc c'est une part dans le capital de l'entreprise. Que l'obligation est un titre de dette, donc c'est-à-dire c'est un contrat qui dit, c'est un contrat, c'est une reconnaissance par l'entreprise que une personne a souscrit une partie de sa dette. Et ça donne lieu à un paiement avec un taux d'intérêt spécifié dans le contrat. Sauf que, si on rentre au fur et à mesure de la vie de l'obligation en tant qu'investisseur, forcément le taux d'intérêt est modifié par le prix sur le marché. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un taux d'intérêt qui est écrit, qui est servi, qui est le taux d'intérêt qui est payé par l'entreprise. Et puis après il y a le taux d'intérêt que reçoit effectivement l'investisseur. Et ça dépend de l'achat initial. Pour l'action, il y a rien de tel qui est spécifié. Il n'y a pas de revenu qui est spécifié à l'avance. Alors la manière dont les économistes racontent les choses, c'est que en fait l'action en fait est payée par les dividendes et que le dividende en fait en quelque sorte peut beaucoup varier dans le temps. Alors quand on regarde les profits de dividendes, c'est vrai que ça varie plus que les profits de taux d'intérêt. Cependant, on voit qu'il y a quand même une forme ça bouge assez lentement, c'est-à-dire ce que raconte en fait une bonne partie des entreprises, c'est-à-dire ils sont bien obligés de servir des dividendes d'un certain niveau pour que les actionnaires continuent de garder. Donc c'est théoriquement très clair la différence entre les deux. C'est bien une part de la propriété alors que l'autre en fait est juste un prêt, mais en termes de différence de revenus, alors que la différence est claire, c'est pas si clair que ça quand on regarde les données.
Ce qu'on constate en tout cas en France, c'est que l'endettement des entreprises sur les marchés financiers a beaucoup plus fortement progressé que l'endettement bancaire. Alors c'est pour les raisons que vous avez évoquées, mais alors quelles peuvent être les conséquences de cette évolution, Denis Durand ?
Alors lorsqu'une entreprise s'endette, ou n'importe quel agent économique d'ailleurs, s'endette auprès des marchés financiers, ça signifie qu'elle se trouve en quelque sorte dans la dépendance de ce que va faire le marché. Et le marché peut réagir d'un instant à l'autre, d'une fraction de seconde à l'autre. Et une conséquence évidente, c'est par exemple le comportement des groupes, des grands groupes industriels depuis plusieurs décennies maintenant, où on voit le PDG obligé tous les 3 mois d'aller rendre compte à ses actionnaires de l'évolution de la rentabilité de l'entreprise, des perspectives d'évolution du cours de l'action. Et si par hasard le PDG en question avait des velléités de mener une politique qui ne soit pas directement commandée par cette rentabilité du capital, alors il serait immédiatement rappelé à l'ordre et la sanction ne traînerait pas, puisque immédiatement, on voit l'effet sur le cours en bourse ou sur le rendement des obligations sur le marché. Donc c'est beaucoup plus contraignant, beaucoup plus autoritaire que, ça peut paraître paradoxal, que potentiellement la relation entre l'emprunteur et le banquier qui va le financer.
Alors le problème, c'est qu'une large partie de cet endettement des entreprises est réalisée à taux variable. Ces entreprises pourraient donc pâtir d'une remontée des taux d'intérêt. Alors est-ce que cela veut dire qu'il faut laisser la dette des grandes entreprises françaises augmenter, Vincent Bignon, ou est-ce qu'il faut au contraire davantage l'encadrer ?
Alors, pour ce qui relève de la dette obligataire, c'est quelque part, je vais faire la réponse d'un économiste simple. En fait, elles émettent ce qui se vend. Et encadrer cette partie-là est sûrement très compliqué. Pour ce qui concerne la dette bancaire, en fait, ce que fait le superviseur, donc en l'espèce le Haut Conseil de stabilité financière, c'est surveiller les risques et prendre ou pas des mesures effectivement permettant d'encadrer. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises récemment. Pour justement surveiller certains segments de progression de la dette des entreprises françaises.
Alors comment les entreprises françaises utilisent-elles cet argent qu'elles empruntent? Selon le rapport de l'INSEE de décembre 2017, cet argent permet aux entreprises d'investir davantage d'une part et d'augmenter leur liquidité afin de se prémunir en cas de crise. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, Denis Durand.
Ça dépend, c'est toujours la même réponse. Peut-être pour revenir sur un élément intéressant du point que vous avez soulevé précédemment, quand on regarde l'évolution du marché du financement des entreprises depuis deux ou trois ans, on observe une chose, c'est que le coût moyen du financement des entreprises par la voie du crédit bancaire est à peu près stable depuis deux ans, trois ans, alors que le coût moyen du financement par le recours au marché est plus bas que le coût moyen du financement par la voie du crédit, mais il augmente depuis le début 2017 de façon régulière, à la différence du coût des emprunts bancaires. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt ont commencé à remonter un peu dans le monde, la Banque Centrale Américaine a commencé à remonter ses taux d'intérêt, donc les marchés prennent en compte cette évolution, et on ne la voit pas dans le coût des crédits bancaires. Je pense que c'est en partie lié aux raisons qu'exposait Vincent Mignon il y a un instant, c'est lié en partie au fait que on peut mieux agir par des mesures de politique économique ou de politique monétaire sur le comportement des banques que sur le comportement des marchés, et je crois que c'est une remarque importante pour la suite.
Et alors je disais, les investissements des entreprises françaises semblent avoir augmenté, mais si l'on entre dans le détail, ce qu'on constate c'est que les investissements dans les moyens de production sont restés stables, en revanche ce sont les investissements financiers qui ont largement augmenté, Vincent Mignon.
Oui, et alors la question est de savoir si c'est grave ou pas. À quoi ça sert?
C'est en tout cas ce qu'on appelle le carry trade.
Alors c'est ce qu'on appelle le carry trade.
Voilà,
alors,
donc
en fait,
quoi il s'agit.
D'abord, juste avant d'arriver au carry trade, en fait, il y a le choix de l'entreprise aujourd'hui, il est entre faire et faire faire. Et faire aujourd'hui dans une économie qui devient de plus en plus tournée vers le traitement de l'information, vers l'innovation, on voit qu'il y a une dématérialisation des formes de capital. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de parler de capital humain à l'opposition du capital physique. Et le capital humain, il est localisé dans le cerveau des personnes qui travaillent. Et ça doit quand même avoir des conséquences aussi sur la manière dont les entreprises se financent, ou en tous les cas sur la manière dont elles financent leur activité, enfin la production. Donc ça, c'est un premier point. Et donc ça veut dire que quelque part, qu'on voit un peu moins d'investissement corporel, c'est peut-être parce qu'on est en train d'avoir beaucoup plus d'investissement incorporel, et peut-être que l'investissement incorporel, ça change la manière dont les entreprises se financent, et par exemple, ça les incite à stocker beaucoup plus de alors, j'ai employé un mot qui n'est pas bien, mais c'est le cash qui me vient dans la main, donc de le compte caisse, quoi, pour parler comme un comptable.
Les investissements corporels étant l'investissement dans les moyens de production.
C'est les bâtiments, les machines, les bureaux, les ordinateurs, etc. Les investissements incorporels, c'est alors, des fois, c'est juste les brevets. Des fois, mais des fois, c'est vraiment la connaissance qui est dans la tête des différents salariés. Et c'est particulièrement clair si vous raisonnez sur Google. En fait, Google, qu'est-ce qu'ils produisent? Ils produisent des lignes de programme. Et la qualité de ce qu'ils produisent, en fait, dépend de ce que leurs salariés arrivent à mettre dans le programme, de la vérification de ce programme. Et ça, vous voyez que c'est quelque chose qui est un changement par rapport à l'économie du XXe siècle où tout était beaucoup plus physique, en quelque sorte.
Et alors, ça, ce qui nous amène au carry trade, c'est-à-dire le fait de s'endetter à taux bas afin d'acquérir des actifs d'un meilleur rendement.
Voilà. Et donc, du coup, si vous voulez, quand l'entreprise, elle n'arrive pas d'elle-même, enfin, elle se rend compte qu'elle a besoin d'une technologie qu'elle n'a pas, elle pourrait décider d'emprunter. Comptablement, ça va se traduire par le fait qu'on va voir plus de finances dans son bilan, mais en fait, elle est en train d'acheter une autre entreprise dans laquelle il y a des salariés qu'elle pense pouvoir l'aider dans la production. Ça, c'est la partie positive. La partie qui pourrait être plus risquée, c'est la partie où l'entreprise s'endette. Elle garde beaucoup de cash en attendant qu'il se passe quelque chose, et du coup, elle a besoin d'avoir du rendement sur ce cash. Elle le place ailleurs, et par construction, le carry trade s'est construit comme j'emprunte pas cher pour gagner de l'argent en plaçant à un niveau plus élevé, mais il y a toujours un risque dans cette opération de transformation. Et le risque, c'est qu'effectivement, il y ait un retournement des taux d'intérêt au milieu qui fait que l'entreprise ne peut plus payer les charges d'intérêt. Et si elle ne peut plus payer les charges d'intérêt, alors évidemment, vous voyez que c'est parce que les charges financières sont en train d'augmenter. Et si les charges financières augmentent, il y a peut-être un moment donné où le risque de défaut augmente. D'où le risque associé au carry trade.
Et puis, au-delà du risque économique et financier, l'autre conséquence, c'est peut-être qu'on assiste à un décalage croissant entre les activités financières d'une part et celles de l'économie réelle de l'autre, Denis Durand.
Ah oui, alors, si, bah, je vais vous donner une mesure de qui en vaut une autre. Mais en 1980, le total des capitalisations boursières dans le monde, c'est-à-dire le total de la valeur des actions qui se négocient sur les bourses, représentait à peu près 22% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est 99% du PIB mondial. C'est-à-dire que la finance de marché, mesurée par cet indicateur, on pourrait en avoir d'autres, a augmenté 5 fois plus vite que la création de valeur ajoutée, c'est-à-dire la création de richesses par les gens qui travaillent dans le monde. Donc là, il y a un vrai problème et il y a l'explication des cracks et des crises boursières qui se sont succédées à rythme régulier depuis le début des années 80 et également l'explication probable du prochain crack qui nous menace et qui va bientôt arriver.
Alors justement, quelles peuvent être les conséquences de la financiarisation des entreprises? Écoutons les explications de Sandra Rigaud, elle est maîtresse de conférence à l'Université Paris 13.
Dès qu'une économie a un système financier développé, il y aura ces effets positifs sur le financement et sur la croissance. Donc, et pour soutenir ce postulat, en fait, vous avez eu pas mal d'études empiriques qui regardaient la corrélation entre le développement du système financier et la croissance économique. Et dans les années 70, la plupart des travaux académiques montraient que cette relation était plutôt positive. Alors, et il y avait aussi des arguments théoriques pour justifier le rôle théorique de la finance dans le financement de l'économie. Et ces arguments, c'est essentiellement une réduction d'asymétrie d'information entre les prêteurs et emprunteurs, ou bien une réduction des coûts de transaction grâce à des économies d'échelle. Donc ça, c'est la théorie. Alors nous, on a regardé en pratique ce que ça donnait depuis 30 ans, puisque les économies se sont financiarisées à partir des années 70. Et le point qui a fait basculer, c'est la crise de 2008. La crise de 2008 a changé la donne parce qu'elle a permis de remettre en question cette relation positive. Alors, la thèse est assez claire, quelle est-elle? C'est que la montée en puissance d'acteurs financiers spécialisés dans la gestion de l'épargne, donc cette montée en puissance depuis les années 70-80, eh bien ça a nuit à l'investissement et aux entreprises en imposant le règne de la liquidité, du court terme et de la valeur pour l'actionnaire. Donc liquidité des marchés.
La crise de 2008 a remis en cause cette relation positive entre développement du système financier et croissance économique, Vincent Bignon.
La crise de 2008 a eu un impact tellement massif sur les revenus de l'économie, ce qu'on appelle le PIB, que par construction, ça a dû remettre en cause les deux, surtout que dans le même temps, la politique des banques centrales a été justement pour relancer l'économie, pour faire en sorte que ça aille mieux, de baisser les taux d'intérêt. Et baisser les taux d'intérêt, ça s'est traduit par le fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont parties à la recherche de rendements un peu plus élevés ailleurs. Alors, ces personnes-là ne sont pas nécessairement des méchants investisseurs. Dès que vous avez un plan d'assurance vie, vous avez normalement expérimenté le fait que vous vous êtes dit, mais avec 0% de taux d'intérêt, il va bien falloir que je trouve du rendement quelque part. Et donc, quelque part, la politique des banques centrales a eu comme conséquence, en fait, de déplacer la manière dont on allouait notre épargne. Et ça a des conséquences, évidemment, sur l'économie. Mais ça peut être des conséquences positives. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que, en fait, le financement par action, par exemple, favorise la prise de risque en termes d'investissement. En tout cas, il y a un certain nombre d'études qui essayent d'argumenter cette hypothèse. Et si c'est ça, alors, baisser les taux d'intérêt sur la dette sûre, ça peut être une manière d'essayer d'encourager le financement par action, mais du coup, d'augmenter aussi le cours des actions. Donc vous voyez que c'est là, il y a toujours des plus et des moins, et c'est vraiment l'équilibre entre les deux qui va compter.
Aux États-Unis, où la réserve fédérale a commencé à augmenter ses taux d'intérêt, on l'a dit, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la croissance de la dette des entreprises américaines? Et à quoi cette croissance est-elle due, Denis Durand?
Mais je crois qu'il faut peut-être revenir aux raisons qui ont conduit, en quelque sorte, à l'accroissement de l'influence, la prise de pouvoir par les marchés financiers, mais ça remonte à ça il y a 40 ans. Mmh. Il faut se replacer à cette époque-là. Les périodes où la finance domine par rapport au financement bancaire dans l'histoire économique se reproduisent périodiquement. Il y a eu la fin du 19e siècle, il y a eu les années folles juste avant le krach de 29. Il y a la période qui dure depuis le début des années 80. Et on observe que ces périodes-là sont liées à des périodes de difficultés durables de l'accumulation du capital. C'est quand il est plus difficile de rentabiliser le capital, il arrive un moment où, disons, l'économie, les dirigeants de l'économie, les chefs d'entreprise, les actionnaires, les détenteurs du capital, choisissent de donner le pouvoir au marché financier. C'est ce qui s'est passé au début des années 80. Et effectivement, ça a marché d'une certaine façon. Ça a permis de remonter la part des profits dans la valeur ajoutée, aux États-Unis, en France, ailleurs. Mais c'est, effectivement, ça a débouché sur toute une série de phénomènes. Et en 2008, on s'est rendu compte que cette méthode-là, qui avait eu des résultats positifs du point de vue de ceux qui l'ont mise en œuvre, commençait à avoir des résultats dangereux et négatifs. Et donc, on est aujourd'hui dans une véritable difficulté, une crise durable dont on prolonge les échéances, mais dont on ne sait pas exactement comment on va en sortir si on continue comme ça.
Mais alors, justement, ce qu'on observe, donc, c'est cette continuation de cette financiarisation des entreprises au niveau mondial. Alors, est-ce que cela veut dire que la finance américaine et peut-être la finance mondiale plus largement n'a pas tiré les leçons de la crise de 2008 ? On a vu que Donald Trump a détricoté un certain nombre de régulations, Vincent Bignon.
Oui, c'est une question difficile parce que il est évident que il faut qu'il y ait des gens qui observent et qui puissent agir quand il y a des risques sur les marchés financiers. Alors c'est en partie le travail des banques centrales quand elles font du prêt en dernier sort au système financier. C'est en partie le travail de ce qu'on appelle le superviseur macroprudentiel. C'est peut-être beaucoup de mots très techniques et très compliqués, mais c'est l'idée que la crise de 2008, ça a dû créer des personnes qui étaient en charge d'étudier ce dont on parle depuis le début de l'émission. Donc ces institutions-là ont dans la main des instruments pour essayer de ralentir le crédit. Est-ce que ça c'est suffisant pour pouvoir conduire la finance alors qu'elle part dans les différents sens? J'espère que oui. Je pense que quelque part, pour l'instant, les choses se passent bien et les gens discutent beaucoup. Enfin, les personnes en charge de la supervision discutent beaucoup pour savoir effectivement où est-ce qu'il y a des risques. Et c'est bien que ce débat arrive dans le public parce que, en fait, c'est à la fois important d'un point de vue d'éducation financière. Il faut savoir que le monde dans lequel on vit, effectivement, c'est un monde risqué, y compris pour l'épargnant. Et de l'autre côté, c'est aussi un monde dans lequel du coup les épargnants disent, mais alors, enfin les épargnants ou n'importe quel agent économique demandent du coup aux autorités de faire attention au mouvement. La catastrophe n'est jamais certaine, ceci étant.
Alors, Denis Durand, la catastrophe n'est pas certaine, mais on la prédit quand même régulièrement. On a l'impression qu'il n'y a pas un jour sans qu'on dise que la crise financière est pour demain. Et alors, est-ce que c'est aussi lié à un choix politique et au fait que dans les années 80, avec la politique monétaire d'augmentation des taux d'intérêt et taux de profit, l'économie financière est devenue plus rentable que l'économie réelle?
C'est exactement ça. Le point de départ, ça a été une mesure de politique monétaire prise par la Réserve fédérale en octobre 1979. Mais quand vous avez une économie comme ça, qui est piloté par la recherche de la rentabilité pour les actionnaires. Parlons rapidement. Ça veut dire que vous avez une norme de profit. C'est-à-dire que si vous êtes en présence, vous êtes une entreprise ou une banque, en présence d'un projet qui va peut-être créer de la valeur ajoutée, mais qui ne sera pas tout à fait assez rentable pour rentrer dans les critères des marchés financiers, vous n'allez pas faire cet investissement. Donc vous n'allez pas créer la valeur ajoutée. Donc vous serez peut-être très rentable, mais vous n'allez pas faire croître la valeur ajoutée et vous allez provoquer ce qu'on observait au début de l'émission, c'est-à-dire une masse de financement qui croît plus vite que le PIB et que la création de richesses. Or, effectivement, c'est un sujet de préoccupation pour les politiques économiques, pour les politiques monétaires, pour les banques centrales, mais je ne suis pas sûr que les mesures qui ont été prises jusqu'à présent répondent vraiment à cette question. Par exemple, une des grandes mesures qui ont été prises à chaque crise, et encore renforcée après la crise de 2008, c'était de renforcer les normes de fonds propres des banques. On dit aux banques, attention, vous prenez des risques, donc il faut que vous ayez plus de capital au cas où il y aura une catastrophe.
Il y a eu beaucoup de débats sur le montant de ces fonds propres.
Mais oui, mais ça veut dire que pour avoir du capital, il faut de la rentabilité, il faut faire des profits, donc il faut favoriser les placements qui sont les plus rentables. C'est-à-dire que, par certains côtés, le remède aggrave le mal. Et je pense qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que nous vivons dans une société qui est rendue instable et pleine de risques économiques. Et on essaie de se protéger contre le risque économique par des moyens qui l'accroissent encore. Donc, il me semble qu'on devrait réfléchir peut-être autrement. Quelqu'un disait, la première insécurité, c'est l'insécurité de l'emploi, c'est l'insécurité sociale. Si on commençait par se préoccuper de la sécurisation de l'emploi, de la formation, de la situation des gens qui travaillent, qui fabriquent les richesses, peut-être qu'on diminuerait le risque global dans la société. Ça serait bon pour les entreprises, ça serait bon pour les banques, et ça serait peut-être bon aussi pour tout le monde.
On va revenir à l'emploi, Denis Durand, mais d'abord, il faut dire que l'inquiétude monte aujourd'hui autour des prêts à effet de levier, c'est ainsi que titrait le journal Les Échos le mois dernier. Alors, il s'agit de prêts bancaires à taux variable accordés à des sociétés déjà très endettées et qui ne bénéficient pas de la note investment grade, donc c'est ce qui est un gage de sécurité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les prêts à effet de levier sont à la dette des entreprises ce que les subprimes étaient au crédit immobilier, Vincent Bignon ?
En tous les cas, aux États-Unis, il y a vraiment une préoccupation de ce côté-là, de savoir effectivement est-ce que les prêts à effet de levier sont l'équivalent des subprimes, c'est-à-dire des prêts tellement risqués avec le fait que c'est taux variable. Donc comme c'est un taux variable, ça veut dire que les États-Unis sont dans un contexte de remontée de leur taux d'intérêt parce que l'économie va bien, le chômage est très faible, l'inflation atteint presque les 2%.
Donc c'est le moment de remonter.
Et donc du coup, c'est le moment de remonter pour la Banque centrale parce que c'est la manière dont elle va pouvoir gagner à nouveau des marges de manœuvre au cas où il y aurait une récession qui arriverait en 2021 ou 2022 ou 2023. Donc du coup, il y a cette phase-là où la Fed est en train de remonter ses taux. Dans le même temps, on a ces entreprises qui se sont endettées à taux variable et donc ça veut dire que concrètement, leur charge d'intérêt va croître, puisque ça va croître avec le taux d'intérêt de l'augmentation du taux d'intérêt de la Fed. Or, c'est des entreprises risquées, donc ça veut dire qu'elles sont fragiles par construction. Enfin, en tous les cas, l'échelle de risque mesure leur fragilité et leur capacité plus faible que les autres à rembourser. Et donc, du coup, on pourrait évidemment se demander si ces entreprises-là vont pas devenir en défaut. L'analogie avec les subprimes, c'est que ces dettes-là ont été sécurisées, sécuritisées. Donc, ça nous ramène à sûrement des émissions que vous avez déjà faites, donc je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Mais en fait, une partie de ce que fait la finance, c'est distribuer le risque. Elle distribue le risque différemment des banques. Les banques le concentrent. En quelque sorte, c'est comme un réacteur nucléaire qu'on a confiné, une banque. Dans l'économie des marchés financiers, on diffuse le risque avec l'espoir que les gens qui le portent, en fait, chacun portant un petit bout du risque, personne ne sera vraiment touché s'il y a un gros problème. Et donc sécuritiser, ça veut dire exactement prendre ses prêts et les découper en tranches et vendre les tranches dans le public. Alors c'est pas le grand public, mais c'est quand même un public. Et donc du coup, le risque qu'il y a et l'analogie avec les subprimes, c'est que les subprimes ont commencé exactement comme ça. Il y a eu des défauts dans certains États américains, des gens qui avaient emprunté pour payer leur emprunt résidentiel, en fait, se sont retrouvés en défaut parce que les conditions locales se sont retrouvées mauvaises, le chômage a augmenté. Et le risque que c'est diffusé par ces prêts structurés. Donc il y a cette crainte aujourd'hui effectivement qu'aux États-Unis, ça joue le même rôle, ces prêts à effet de levier, que les subprimes. Les volumes sont beaucoup plus faibles, donc je veux pas...
Mais c'est à la fois, en effet, alors même si les volumes sont plus faibles, c'est à la fois la quantité et la qualité de ces prêts qui inquiètent, des prêts qui peuvent aussi être accessibles aux particuliers sous certaines conditions, Denis Durand.
Oui, alors, mais de toute façon, c'était tout à fait exact. Ce qui a transformé la crise, le marché des crédits immobiliers américains, la titrisation, c'est très ancien, ça date des années 30. C'était assez encadré. Ce qui a transformé la crise des subprimes en une catastrophe mondiale, c'est précisément cet échafaudage de spéculation sous forme de titres. C'est-à-dire, on avait transformé les prêts bancaires aux ménages en titres négociables sur des marchés plus ou moins bien réglementés. Et c'est ce marché-là qui a explosé. Et donc, c'est une manifestation particulièrement flagrante des dangers inhérents au choix de recourir au marché de titres comme élément de financement de l'économie. Et n'importe quel type de secteur à financer peut donner lieu à ce genre d'évolution.
Et c'est le cas notamment de ces prêts à effet de levier. For those who doubted me, yeah, this is payback. And I've been on my grizzly, yeah, since way back. No sir, and I don't drive a Maybach. But guess what I did? I finished paying, selling Maybach, Maybach. 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 Huh, let me tell you what I've been through when it come to Sally. She call me at least twice a day, she want our money badly. Calling me from different numbers, ooh, she thinks she slick. But I got them all memorized, I hit ignore quick. Needed tuition, needed room and board. Had to
pay for books, so I took out loans to feed the boy. Graduated, wasn't making quite enough to pay him back. Went in default, messed my credit up, check my Equifax, huh. I ain't proud of that, I'm more proud of that, I ain't drowning that. I got two jobs, really got on my grind, no time to whine. I can't ride the pine in the game right now, my time to shine. Started paying them loans back one at a time. Got them down, 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 till I paid them all off. Peace sign. For those who doubted me, yeah, this is payback. And I've been on my grizzly, yeah, since way back. No sir, and I don't drive a Maybach. But guess what I did?
I finished paying, selling Maybach. Maybach.
Just had a long day. Just got off of work, they got me drove. My boss kept me late. Walk inside the kitchen, grab a dish, and then I fix a plate.
Red beans and rice on a Monday.
Then I sit down on the sofa, grab the remote, and turn on the news. Open up my laptop, kick, 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 kick off my shoes. I see that I got an email from Sally Mae. Did another month pass that I forgot to pay? Oh no, hope this email ain't wrong. It say congratulations on paying back your student loans. I took a screenshot, boy, I had to save that. Then I hit my homeboy like,
I finished paying, selling, Maybach. Maybach. I finished paying, selling, Maybach. Maybach.
Sally Maybach, du rappeur américain D1, qui dénonce la dette étudiante aux États-Unis. Nous sommes toujours avec Vincent Bignon et Denis Durand et nous parlons des menaces de la dette sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Alors maintenant, nous allons voir que pour l'économiste Patrick Artus, le problème de notre système économique actuel, c'est qu'il fait peser le risque sur les salariés. On l'écoute.
Les salariés subissent deux menaces, hein, qui sont de nature différente, mais qui se cumulent. C'est une menace qui vient de la façon dont fonctionne le capitalisme aujourd'hui, surtout d'ailleurs dans le monde anglo-saxon. C'est un capitalisme où les actionnaires veulent des profits plus élevés et veulent que les risques soient portés par les salariés. Et donc évidemment, ça veut dire des salaires plus bas, ça veut dire plus de flexibilité du marché du travail. Et c'est très choquant parce que si les salariés portent le risque d'entreprise, c'est eux qui devraient être rémunérés pour ce risque, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Une entreprise doit prendre des risques pour réaliser des bénéfices, mais toute la question, Denis Durand, c'est sur qui ce risque doit-il peser ?
Alors c'est vrai qu'il y a un lien entre l'augmentation du risque pour les salariés et la financiarisation de l'économie. Alors en France, on est relativement moins touché par ce phénomène parce que on n'a pas de système, ou très peu de système de fonds de pension, de retraite par capitalisation, mais dans les pays où les salariés sont amenés à cotiser et à accumuler de l'épargne pour financer leur retraite future, alors, effectivement, leur retraite est exposée aux aléas des marchés. Effectivement, c'est une façon pour le capital de transférer une partie du risque sur le travail.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que si les grandes entreprises se financiarisent, c'est aussi pour conquérir de nouveaux marchés à l'international, Vincent Bignon, et restructurer leur production. C'est lié au fait de privilégier la croissance externe, à ce que vous disiez tout à l'heure, à la croissance organique.
Alors ça c'est clairement il y a clairement un facteur qui est effectivement dans l'achat, enfin dans l'insertion dans ce qu'on appelle en anglais les global value chain, c'est-à-dire la chaîne de valeur internationale ou les chaînes de valeur globales. Comme vous savez, les iPhones sont conçus en Californie, produits en Chine, et les composants sont produits un peu partout en Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est déjà une manière où, en fait, quelque part, ça doit changer les rapports capitalistiques entre dans un groupe. Donc par construction, ça crée de la financiarisation, parce que ça crée des titres de propriété ou des titres de dette à s'échanger. Il y a une deuxième dimension qui joue, alors c'est particulièrement le cas aux États-Unis, et c'est lié au changement du processus productif dans les économies modernes, qui est l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors il va falloir arrêter de dire qu'elles sont nouvelles bientôt. Mais par exemple, des entreprises comme Facebook, Google, des entreprises comme Apple, en fait, changent la manière dont elles rémunèrent leurs salariés. Elles donnent plus de stock options. Comme elle donne plus de stock options, en fait, du coup, c'est une manière pour elle de s'attacher les salariés d'une certaine manière. Alors, pas tous les salariés, d'accord ? Ceux dont ceux qui dans lequel il y a du capital humain, on va dire, c'est toujours une logique qui est liée à la production et liée à la manière dont le capital est distribué dans l'entreprise. Et donc du coup, les stock options, c'est une manière d'acheter la fidélité du salarié qui a beaucoup de capital humain dans sa tête. Ça change, enfin, c'est beaucoup plus le cas aux États-Unis évidemment qu'en France, en partie parce que la composition sectorielle, il y a beaucoup moins de Facebook en France ou de Google qu'aux États-Unis.
Le problème qu'on constate, c'est qu'une entreprise bien portante sur les marchés, bien notée et au bon chiffre d'affaires, peut être moins pourvoyeuse de richesses et d'emplois pour la société qu'une entreprise qui est moins performante ou moins bien notée, Denis Durand.
Mais c'est exactement ça. Quand vous avez un capital à investir, quelle que soit la somme, $1 million, $1 milliard, vous devez faire un calcul. Vous devez sélectionner l'investissement qui correspondra le mieux à ce que vous recherchez. Et là, vous avez deux méthodes. Soit vous regardez le profit que vous allez retirer de l'investissement et vous le comparez à la mise initiale. Et vous pouvez obtenir des formes de rentabilité comme ça. Mais vous pouvez aussi, on devrait pouvoir aussi faire le calcul de rapporter la valeur ajoutée créée par l'investissement à la mise initiale. Et là, vous n'arrivez pas forcément aux mêmes décisions. Vous pouvez, exactement comme vous le disiez, avoir des entreprises très profitables au sens de la rentabilité du capital et qui ne créent pas beaucoup de valeur ajoutée. Et inversement. Et là, on a vraiment un antagonisme très profond dans l'économie qui mériterait certainement qu'on y consacre des émissions.
Alors, on y consacrera probablement des émissions dans le futur, mais alors on a vu que la dette des entreprises était préoccupante et c'est aussi le cas de la dette des ménages, même si en France, tout d'abord, le risque associé au crédit immobilier est plutôt faible. Alors pour quelles raisons? Et en même temps, ce qu'on constate, Vincent Bignon, c'est qu'il y a un certain recul des situations de surendettement en France.
Oui, l'environnement je vais employer un mot qui est courant chez les banquiers centraux, l'environnement de taux bas, c'est-à-dire le fait que pendant très longtemps, les taux d'intérêt ont été faibles parce que les banques centrales ont essayé de relancer l'économie, à peu près. Donc cet environnement de taux bas, en fait, a eu un impact positif sur, un, les charges financières des ménages en empruntant à taux variable, ce qui n'est pas beaucoup en France, mais deux, ça a aussi permis pas mal de renégociations, il y a eu beaucoup de renégociations de prêts immobiliers, et les commissions de surendettement, en fait, ont pu utiliser ce levier, en fait, pour réduire la charge de la dette et étendre un peu les maturités. Et ça a permis de réduire les situations de désendettement de manière assez prononcée depuis 2-3 ans, oui.
Mais le risque sur la dette des ménages consiste peut-être dans le fait que de plus en plus, les prêts immobiliers sont octroyés très facilement, et cela en raison de l'accélération de la croissance de l'immobilier depuis 2 ans, Denis Durand.
Alors ça, on peut penser que la France est un pays où contrairement à d'autres, la bulle immobilière, s'il y en a une, n'a jamais été dégonflée. Contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, ça on le sait, en Espagne et ailleurs. Donc là, il y a sans doute un vrai sujet de préoccupation. Et puis d'autre part, c'est vrai que le nombre de dossiers de surendettement qui arrivent à la Banque de France a fortement baissé ces dernières années pour différentes raisons. Mais en lisant le rapport de l'Observatoire du surendettement de la Banque de France, le surendettement se concentre sur des populations socialement défavorisées, en témoigne notamment la part croissante des adultes isolés parmi les surendettés, la proportion importante de chômeurs, 4 fois supérieure à celle des chômeurs dans la population française, etc. La proportion croissante des ménages disposant de revenus inférieurs aux minima sociaux, ou du SMIC, etc. Et là, en lisant ce paragraphe, involontairement, j'ai senti se dessiner une image en fond d'écran, l'image d'un rond-point occupé par des citoyens en gilet jaune. Je crois qu'il y a un rapport entre les deux.
Alors, il faut peut-être, en l'occurrence, vous parlez des gilets jaunes aussi, prêter particulièrement attention au crédit à la consommation. Selon la Banque de France, depuis 2015, environ 2/3 de la hausse du crédit à la consommation aurait pour origine le financement de l'automobile, Vincent Bignon, en l'occurrence.
Oui.
Sur cette hausse, parce que ce qu'on constate, c'est quand même que la dette des ménages atteint près de 60% du PIB en France. Ouais. Et elle ne cesse d'augmenter depuis 2011, contrairement à un certain nombre de pays européens. On a une situation particulière en France.
On a une situation particulière en France qui effectivement, je pense, incite en fait à réfléchir aux raisons. Du côté de la dette immobilière, c'est vrai que la progression des prix est importante. Il y a un point pour tempérer L'inquiétude, c'est que contrairement à un grand nombre de pays, en France, on ne prête pas en fonction de la valeur du bien. Et donc le fait que le prix continue d'augmenter n'a pas d'impact sur le fait qu'on peut en augmenter plus. On prête en fonction des revenus, comme toutes les personnes qui a emprunté le sait. Et donc ça, c'est un facteur qui limite en fait la transmission des risques financiers.
Et sur les causes peut-être, de ce recul du surendettement.
Alors, sur les causes du recul du surendettement, très clairement, la baisse des taux a beaucoup aidé, et donc on pourrait se demander si la hausse des taux qui pourrait avoir lieu, en fait, va pas inverser la tendance. La chance qu'il pourrait y avoir, c'est que le surendettement dépend de deux choses, des charges d'intérêt et des revenus. Et donc, si quelque part le chômage baisse, si les revenus augmentent, en quelque sorte, c'est pas très embêtant si les taux d'intérêt augmentent.
Justement, cette hausse des taux d'intérêt, à quand est-ce qu'on peut la dater ? On a entendu beaucoup de dates différentes. À quel moment est-ce qu'on peut imaginer qu'elle devrait intervenir ? On a parlé de cet été, par exemple.
Oui, alors il y a une phrase de Mario Draghi qui répète régulièrement après ses conférences de presse.
Le président de la Banque Centrale Européenne.
Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne. C'est effectivement que la Banque Centrale Européenne commencera à augmenter ses taux through the summer. Et alors, je vous le cite en anglais parce que, en fait, il y a eu un débat pour savoir ce que voulait dire through the summer, THROUGH pour les noms directement anglophones. Et donc, en fait, il a dit, c'est la version anglaise qui compte. Et la version anglaise, ça veut dire à travers, au cours de l'été. Donc on pourrait s'attendre, en tous les cas, c'est ce qui a été annoncé, à ça.
La question de l'endettement des ménages en France est préoccupante, mais elle l'est peut-être beaucoup plus aux États-Unis. D'après un rapport de la Fed, l'endettement des ménages américains dépasse les 13 000 milliards de dollars. Mais le danger, cette fois, ne devrait pas venir, comme c'était le cas en 2008, de l'endettement immobilier. Le marché immobilier s'est plutôt assaini depuis la crise de 2008. Vincent Bignon, les banques sont plus regardantes.
C'est ce qu'on dit, et puis on parle beaucoup des prêts étudiants, en fait. Le véritable problème aux États-Unis aujourd'hui, c'est les prêts étudiants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les frais d'inscription à l'université ont explosé. Pas seulement dans les bonnes universités, dans toutes les universités.
Ils peuvent atteindre 70 000 dollars
l'année.
Oui,
70 000 dollars l'année, auquel vous rajoutez 10 ou 15 000 dollars pour arriver à avoir une chambre d'étudiant et un peu de nourriture. Ça fait donc des taux d'endettement à l'entrée dans la vie active qui sont extrêmement élevés.
Et bien justement, je vous propose d'écouter le témoignage d'une étudiante américaine de l'Université du Maryland, extrait d'un reportage de France 24 diffusé cet été.
Ces visites servent à créer un sentiment d'excitation autour de l'université. Ce que ce recruteur ne mentionnera sans doute pas, c'est le coût de l'éducation ici. La plupart de ces gens ne prendront pas cela en compte. Moi, par exemple, j'ai déboursé 1000 dollars rien que pour mes livres. Ils n'ont aucune idée de tout l'argent qu'ils vont dépenser ici. J'ai dépensé plus de 129 000 dollars, rien qu'en frais de scolarité, sans compter les livres, le temps, l'énergie investie et les petits boulots que j'ai dû faire. Si c'était à refaire, je ne recommencerais probablement pas. C'est beaucoup d'argent, j'aime ma fac, mais c'est juste trop cher.
La dette étudiante représente désormais 11% de l'endettement des ménages aux États-Unis contre 3% seulement en 2003. C'est aujourd'hui l'un des premiers sujets d'inquiétude, Denis Durand.
Si on voulait être un peu cynique, on pourrait dire qu'après tout, ça n'est jamais que la conséquence de la façon qu'on a de considérer les capacités des êtres humains comme un capital humain. Si je suis un capital humain, je vais faire d'effet de levier, je vais m'endetter et puis j'aurai une rentabilité extraordinaire à l'échéance de mon opération. Et puis je reprends un risque de bousiller complètement mon existence. Je pense que c'est un élément qui peut permettre de toucher les limites de cette façon de considérer l'économie et la prise en compte de la capacité des êtres humains à créer des richesses. Et je pense qu'effectivement, on touche aux limites de ce système-là, de cette façon néolibérale de considérer l'économie et la gestion de la société bien au-delà de l'économie.
Selon le think tank Urban Institute, il serait 8 millions sur les 40 millions à être endettés, à représenter des risques de défaut de paiement. Et alors, il y a une autre dette qui inquiète également et peut-être davantage, c'est la dette automobile. Des prêts automobiles seraient de plus en plus octroyés à des ménages peu solvables et on les appelle justement les subprimes auto loans.
L'histoire se répète rarement, mais rime souvent. Et donc, ce prime immobilier versus ce prime auto, il y a des différences déjà. On n'achète pas la même chose. Ce prime immobilier, ce qui est intéressant, c'est qu'en face, on avait quand même un actif réel, tangible, qui, certes, allait voir sa valeur baisser, mais concrètement, on avait quand même une maison associée à cela. Là, vous achetez à crédit quelque chose qui, dont la valeur va finir par tendre vers zéro. Et donc, on va dire que ce que vous achetez, c'est-à-dire que la valeur nette de l'actif que vous avez en fonction de la dette que vous avez souscrite, est plus dangereuse sur les crédits auto versus les crédits immobiliers. Parce que tout simplement, la voiture, à la fin, elle ne vaut plus rien.
L'économiste Pierre Sabatier, c'était en novembre 2017. Alors, les crédits auto inquiètent pour les raisons que vient d'évoquer Pierre Sabatier et aussi parce qu'ils ne cessent d'augmenter aux États-Unis, Vincent Bignon.
Oui, à la fin, c'est un peu toujours la même mécanique, c'est-à-dire, est-ce qu'on prête aux bonnes personnes? Alors, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais le métier d'un banquier, c'est de sélectionner à qui il prête. Alors, il y a un côté qui est particulièrement prégnant aux États-Unis, c'est que l'accès au crédit est aussi une manière d'élargir le champ de la consommation. Donc, donc quelque part, relâcher les standards de crédit, ça permet d'augmenter le nombre de gens qui bénéficient du prêt, mais au risque qu'ils ne remboursent effectivement pas. Et donc, alors que la partie immobilière a été beaucoup plus surveillé. En fait, en quelque sorte, il y a eu la volonté, je sais pas si c'était une volonté, d'ailleurs, je pense pas que c'est une volonté publique, mais je pense du point de vue des acteurs, effectivement, d'étendre les marchés, d'aller conquérir de nouveaux marchés. Et ça pose des questions sur la distribution des risques et la capacité des emprunteurs à rembourser.
Et puis le problème, c'est que comme pour l'immobilier en 2008, ces prêts à risque sont titrisés, redistribués aux investisseurs à travers divers instruments financiers. Et donc là encore, il y aurait peut-être un risque de transmission à l'économie mondiale, Denis.
Alors, de toute façon, ce genre de risque devient vraiment dangereux quand il commence à toucher, à mettre en danger les banques. Parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on développe les opérations de marché, les titres, la titrisation, etc., que les banques ne jouent plus un rôle important dans l'économie. Elles jouent un rôle très important. Par exemple, elles prêtent de l'argent aux spéculateurs. Et les subprimes, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, effectivement, là encore, on retombe. Et c'est une constante. Si on veut s'intéresser aux risques et si on veut essayer d'avoir une influence sur la marge de l'économie, il faut vraiment s'intéresser aux banques. Ce qu'elles font, ce qu'elles pourraient faire et comment on pourrait agir sur leur action. Ça, c'est un problème qui relève en particulier des banques centrales et de la politique monétaire.
Alors, on arrive au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être sur cette dette mondiale et sur les différents endettements dont on a parler et sur les risques qu'ils font peut-être courir à nos économies. Vincent Bignon.
Oui. Alors, je pense que le principal, c'est de vérifier, c'est constamment se demander quelle est la cohérence dans l'augmentation des volumes de crédit. Quelque part, l'augmentation des volumes de crédit, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, n'est pas nécessairement négative parce que ça peut financer des activités qui sont particulièrement importantes. Financer les études des étudiants, c'est une bonne idée il faut que les étudiants aient dans leur tête plein de choses nouvelles pour traiter l'information du monde dans lequel on est. Et donc ça, c'est le côté positif. Le point est que on a un problème d'adéquation, on a deux problèmes potentiels, un problème d'adéquation, est-ce que les étudiants ont effectivement bien appris suffisamment pour pouvoir avoir le travail qui leur permet de rembourser? Et puis il y a un deuxième point qui est la distribution des risques, c'est-à-dire peut-être qu'ils ont bien appris, mais que les revenus ne seront pas suffisants pour payer les dettes, et donc ça permet. Donc quelque part, c'est ici que il y a un rôle en fait pour la surveillance des risques, mais a priori, l'endettement n'est pas toujours un phénomène négatif. C'était un des grandes leçons d'un livre de David Graeber qui s'appelle « Dette, 5000 ans d'histoire », qu'effectivement, on alterne constamment en fait, des cycles d'augmentation d'endettement et de réduction. Le problème est d'arriver à gérer, d'arriver à faire avec cette vague, ces vagues.
L'endettement n'est pas négatif en soi, mais peut-être qu'il y a aussi une question de contrôle étatique qui intervient ici.
Bien sûr, il ne peut pas y avoir de progrès économique, sociale, sans création monétaire, sans endettement, sans crédit. La question, c'est de savoir effectivement qui décide, et pas forcément l'État, mais qui décide de l'usage qui doit être fait de cet argent qui est mis en circulation dans l'économie par les banques et à travers différentes institutions financières. Or, aujourd'hui, fondamentalement, qui décide? C'est quelques dizaines de milliers de traders dans les salles de marché, dans les conseils d'administration des multinationales. Or, nous sommes 7 milliards d'habitants sur cette planète. Je pense qu'il y a un problème démocratique sur ça.
Et Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffany, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'un duel d'illusionnistes au sommet.
Mais oui, d'un côté nous retrouvons celui qui a été qualifié de Houdini des télécoms pour ses capacités d'escamoteur financier hors pair, le fameux Patrick Drahi, patron de la société Altis. De l'autre, nous avons le principal espace de prestidigitation économique, sorte de rassemblement international de magiciens anonymes. Vous aurez reconnu les marchés financiers. Il semblerait ainsi que la guilde des magiciens anonymes est enfin mis à jour, les secrets et les tours du génie du mobile. Comme si la sidération ou l'hypnose s'effaçant, ces derniers découvraient la réalité du modèle économique du groupe, propriétaire entre autres de SFR, mais aussi de BFM, Libération ou encore L'Express. Il faut dire que Patrick Drahi était passé maître dans l'art de dissimuler les montagnes de dettes d'un empire vivant à crédit, sorte de coffre à double fond des montages juridiques et financiers parvenaient à faire oublier les 50 milliards d'euros de dettes du groupe pour les maquiller en stratégie d'expansion continue.
Un charme qui semble pourtant avoir été levé il y a un peu plus d'un an.
Oui, un retour à la réalité marqué par la chute incontrôlée du cours en bourse de la firme, perdant en quelques jours plus d'un tiers de sa valeur. Patrick Drahi a alors annoncé une série de mesures visant à rétablir la confiance des marchés, car il en est de l'économie financière comme d'un tour de magie. Elle ne fonctionne que s'il existe une entente tacite entre les acteurs. Il convient donc de multiplier les effets de manche pour que l'illusion tienne, sans quoi l'édifice s'écroule comme un château de cartes. Tentant de reprendre la main, le patron d'Altis a donc annoncé une série de changement dans la direction de l'entreprise, à commencer par son retour à la tête de la firme, mais aussi la nomination d'un nouveau directeur général ou encore le remplacement du patron des activités médiatiques du groupe.
Des changements drastiques qui semblent pourtant n'avoir pas été suffisants.
Non, effectivement, il semblerait que les investisseurs n'aient guère été convaincus par cet habile tour de passe-passe visant à réaffirmer la capacité d'adaptation et le dynamisme du groupe. Comme l'explique un analyste financier interrogé par Mediapart, le problème chez Altis n'est pas un problème de management, mais celui d'une structure capitalistique insoutenable. En clair, le problème, c'est la dette. En effet, tout l'empire fonctionne sur un système de vases communicants où les actifs doivent être en mouvement perpétuel pour maintenir intact l'illusion de santé financière. C'est ce que l'on appelle une structure de leverage buyout, soit un dispositif de rachat et de transfert de la dette entre les différentes entités de l'empire. Une structure en mouvement permanent qui ne va pas sans une forme d'instabilité structurelle, puisqu'il suffit d'un arrêt ou même d'un ralentissement des financements pour que toute la structure soit mise en péril. C'est donc un cercle vicieux auquel se trouve confronté l'illusionniste Drahi. La perte de confiance des marchés entraîne un affaiblissement des résultats qui, à leur tour, continuent de refroidir les investisseurs potentiels.
Des déboires qui ont commencé avec les mauvais résultats de SFR, pourtant au cœur de l'empire Drahi.
Oui, comme l'explique la journaliste Martine Orange dans son article de Mediapart, l'opérateur de télécom constitue à la fois sa pierre angulaire et son talon d'Achille, puisqu'il réalise à lui seul la moitié du chiffre d'affaires, mais porte aussi une part substantielle de l'endettement du groupe. Le problème, c'est que l'entreprise a connu ces derniers temps une série de déboires financiers et une multiplication des accusations de dysfonctionnement, des ventes forcées ou même d'escroquerie par des clients jurant, mais un peu tard, qu'on ne les y prendrait plus. Une perte de confiance qui s'est traduite par la perte de plus de 2 millions de clients en 2 ans. Et si l'entreprise gagne ces derniers mois des abonnés, le signal envoyé à l'époque a été désastreux pour la firme qui doit désormais faire la preuve perpétuelle de sa bonne santé face à d'insaisissables marchés.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Et pour célébrer les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU le 10 décembre 1948, France Culture diffuse exceptionnellement toute la journée des extraits des différents articles de la Déclaration. Une lecture de l'écrivaine Sylvie Gragnotti.
Article 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. Grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. You hang around me like a bandit. You haven't taken out the garbage yet. I must be crazy, I'm the one upset. I let you hang around me like a bad debt. The night I met you, you were looking good. I took you home with me and fixed you some food. We kissed and hugged until the morning light. Now how was I to know that your intentions weren't right? That was 3 years ago and you're still here, stretched out on my couch drinking all my beer. I'm paying all the bills while you watch TV. Time I underwent some psychotherapy. Bad debt, bad debt. You haven't taken out the garbage yet. I must
like a bad debt. Hey!
On se quitte sur Bad Debt de Sapphire, The Uppity Blues Woman. Merci beaucoup à tous les deux, Vincent Bignon et Denis Durand, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Denis Durand, je rappelle vos livres, Un autre crédit est possible, publié aux éditions Le Temps des Cerises, et plus récemment, 7 leviers pour prendre le pouvoir sur l'argent, paru aux éditions du Croquant. On se retrouve demain pour une émission consacrée à l'histoire des faillites d'État. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous les coups. Bring me a doctor, lawyer, Indian chief. J-O-B is how I spell belief. I want somebody with a little backbone, a man with a plan and a place of his own. Bad debt, bad debt. I've had it up to here with bad debts. I'm gonna write you off so I can forget. I let you hang around me like a